Bonjour et bienvenue dans Mes disques à moi sur la RAM, votre radio qui émet depuis ses studios d'Embrun et qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédéric Rentière, bonjour.
Bonjour Viviane.
Et Pierre Delprat.
Bonjour.
Pour une émission consacrée tout spécialement au chant grégorien. Et vous allez comprendre pourquoi. Pierre Delprat est le président du chœur grégorien des Hautes-Alpes et Frédéric Rentière en est le chef de chœur. Et donc on va parler de cette musique tout à fait particulière. Peut-être, Frédéric Rentière, je vais vous donner la parole tout de suite, car vous êtes non seulement le chef de chœur de ce chœur grégorien des Hautes-Alpes, que vous pilotez, ma foi, depuis loin, puisque vous arrivez depuis Paris, pour vous allez nous expliquer selon quelle formule, mais vous êtes aussi spécialisé dans les musiques du Moyen-Âge. Alors peut-être qu'avant de commencer, un petit historique, une petite précision s'impose sur ce qu'est le chant grégorien.
Oui. Le chant grégorien, en fait, tire son nom du pape Grégoire le Grand, mort au début du 7e siècle, et qui, en fait, c'était un nom qui était attribué beaucoup plus tard, à partir du 11e siècle. On a commencé à baptiser chant grégorien le chant qui aurait été fondé par Grégoire le Grand lui-même, mais ce qui est l'œuvre, finalement, des historiens du Moyen-Âge.
Donc c'est une reconstitution, en fait, un petit peu a posteriori.
Exactement, voilà. Mmh. En réalité, le chant grégorien, c'est plusieurs traditions de chant ecclésiastique qui se sont regroupés pendant l'époque carolingienne, de manière très progressivement, déjà avant l'époque, pendant l'époque mérovingienne, mais surtout pendant l'époque carolingienne, et qui au passé le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du XIe siècle, va vraiment s'institutionnaliser et va prendre l'étiquette de chant grégorien, de manière plus officielle.
Alors quelles en sont les caractéristiques ?
Alors les caractéristiques du chant grégorien, c'est d'abord la psalmodie. C'est ce qu'on expérimente beaucoup avec le chœur grégorien des Hautes-Alpes, c'est-à-dire que c'est d'abord la proclamation d'un texte liturgique en latin, puisque le latin est la langue universelle de l'Église, donc un latin qui lui est rythmé, chantant, avec des accents toniques, et les mots entre eux donc forment une espèce d'entité, une phrase musicale, qui elle va finalement imprimer le rythme au chant lui-même. Donc en fait, le chant grégorien, c'est d'abord ça fondamentalement. Et ensuite, c'est aussi ce qu'on appelle les mélismes. Alors ça, c'est un terme technique, c'est-à-dire toutes les mélodies, toutes les notes qui se rajoutent sur une syllabe importante, qui correspond souvent au sens du mot, à l'importance qu'il prend, qui ont été notées au Moyen-Âge dès la deuxième moitié du 9e siècle. On a commencé à noter pour des raisons de difficulté, pour des raisons aussi de stabilisation d'une manière de chanter, parce qu'il y avait, on était encore à une époque orale où on chantait de manière très libre finalement un même texte. Et tout le travail, c'est justement d'arriver à ces mélismes, leur donner vie, sens, comme on peut entendre d'ailleurs dans beaucoup de liturgies orientales qui sont aussi très mélismatiques, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ces mélodies elles prennent corps à partir du texte.
Alors Pierre Delprat, vous êtes le président donc du chœur grégorien des Hautes-Alpes, c'est un chœur qui existe depuis combien de temps ?
Ah ben, administrativement depuis 2013, puisque nous sommes constitués en association en septembre 2013, mais c'est un regroupement de chanteurs qui a pris ses racines bien avant, puisque nous nous connaissions amicalement depuis, on va dire, les années 2009-2010, pour avoir fonctionné notamment sur le département du 04 à Manosque. Et puis, mais là à Manosque, c'était un chœur qui était à vocation à recrutement régional, et il y avait des gars pensés déjà. Et puis quand ce cœur s'est séparé pour tout un tas de raisons, ben les gars pensés ont continué à chercher à continuer leur œuvre sur le chant grégorien au sein du département des Hautes-Alpes, et c'est là que nous avons cheminé et rencontré Frédéric Rentière un peu plus tard. Voilà.
Alors on va revenir sur la façon dont s'organisent justement vos répétitions et vos concerts également ensemble. Mais passons à la musique tout de suite. Alors Frédéric, je vais vous laisser présenter le premier morceau dont on va écouter un extrait.
Donc là vous allez entendre le chant d'entrée, l'introïte. Ça s'appelle « Du jour de Noël, Puer natus est, un enfant est né, un fils nous a été donné ». Et qui est donc un introïte qui est alterné avec des versets, en fait, des versets psalmodiés. Et donc, qui est chanté par l'ensemble Vox in Rama, que je dirige sur Paris, et qui est enregistré dans son premier CD, le CD Flores Aquitanes, consacré au chant aquitain.
Alors, on vient donc d'écouter un chœur grégorien de femmes, Frédéric oui. Rentière. Donc, les femmes chantent le grégorien.
Elles l'ont toujours chanté, comme les hommes.
On le sait, ça.
On le sait par en fait, les règles monastiques, puisque les premières règles monastiques occidentales comportent un volet masculin et pour les moines et un volet féminin pour les moniales. Donc on le sait, les premières règles, les femmes chantaient. Mais évidemment, c'était les femmes séparées et les hommes séparés, bien sûr.
Voilà, règle que vous n'appliquez pas, Pierre Delprat, dans votre chœur grégorien, puisque maintenant on a des chœurs mixtes.
Eh bien évidemment, nous sommes une douzaine dans notre association, et à peu près par égal, hommes et femmes. Voilà, maintenant, ben, c'est la règle de la mixité partout. Ah oui. Les femmes ont pris leur place sans avoir à se démarquer des hommes. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous chantons hommes et femmes, des fois à l'unisson, des fois le chœur des hommes répondant à celui des femmes, et avec des pièces qui des fois sont chantées uniquement par des hommes ou uniquement par des femmes. Voilà. Et ça donne beaucoup de diversité dans les programmes.
Ça donne plus de relief.
Oui, oui, forcément. Oui, donc oui. Du coup, effectivement, vous adaptez de cette façon-là pour pouvoir jouer de la mixité de ce chœur. Alors Frédéric Rentière, on l'a dit, on l'a évoqué, en tout cas, vous êtes basé à Paris, mais vous dirigez ce chœur grégorien des Hautes-Alpes. Alors sous quelle modalité, du coup?
Sous forme de stage, en fait, de 3 jours. Donc, on a convenu avec le chœur grégorien des Hautes-Alpes d'organiser 6 stages par an, avec à chaque fois un programme déterminé longtemps à l'avance. Ils ont d'ailleurs des partitions, la possibilité de travailler avec des enregistrements. Je leur prépare. Et puis, à l'issue de chaque stage, on présente, en fait, au public, dans une église sélectionnée, le travail. Et puis, au bout des 6 stages, ce qu'on va faire d'ailleurs cette année, on présente un concert qui, lui, est vraiment le fruit, on récolte le fruit de travail sur toute l'année. Et je laisse Pierre d'ailleurs peut-être introduire le concert prévu à Boscodon en juin.
Eh bien oui, cette année, nous clôturerons notre année culturelle à Boscodon par un stage qui va se dérouler vendredi 17 juin jusqu'au dimanche 19 juin. Mmh. Et le dimanche après-midi, à 16h30, en l'abbatiale de Boscodon, nous donnerons notre concert de fin d'année.
Voilà, donc rendez-vous est pris déjà pour le 19 juin, 16h30, entrée libre hein, d'ailleurs pour,
oui,
voilà. pour ce concert.
Sonorité romane, je crois que c'est comme ça qu'il a été baptisé, pour justement faire retentir les voûtes de l'abbatiale, et puisque ce chant, le chant grégorien, vraiment, enfin les architectures elles-mêmes ont été conçues pour faire retentir le chant grégorien.
Alors Frédéric Rentière, comment est-ce que vous bâtissez vos programmes pour travailler avec le chœur des Hautes-Alpes?
Alors c'est très variable, ça dépend vraiment des formations. Pour le chœur grégorien des Hautes-Alpes, j'ai fait un programme qui suit les saisons. Donc on a commencé par un programme d'abord marial sur donc les chants dédiés à Marie qui ont... La religion chrétienne est très importante et qui a donné cours à beaucoup de magnifiques mélodies, de créations magnifiques. Ensuite, on a eu un programme sur le temps de l'Avent, donc qui correspondait plus au mois de novembre, décembre. Ensuite, on a eu un programme sur la nativité et l'épiphanie. Ensuite, un programme sur le carême, alors là qui est un temps liturgique où il y a les pièces les plus difficiles, en fait réputées les plus difficiles, ce qui est vrai, quand on les chante on s'en rend compte, qui sont magnifiques mais qui demandent encore plus de travail que les autres. Et puis là, on va travailler sur le temps pascal et la Pentecôte. Donc tout ce qui est la question de l'effusion de l'Esprit Saint et qui sur le plan musical est magnifique, susciter beaucoup de créativité artistique.
Alors je vous laisse introduire le deuxième morceau de cette émission « Mes disques à moi » sur la rame, Frédéric Rentière.
Alors vous allez entendre un Sanctus, alors avec un nom bizarre, Tropé. Le trope au Moyen-Âge, ce sont des compositions en fait poétiques, des versets poétiques, donc pas bibliques, mais composés par des poètes, qui sont alternés avec le chant en lui-même. Et là, donc, c'est un Sanctus qui figure dans le livre des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, donc le fameux pèlerinage qui s'est développé au XIIe siècle, pendant la reconquête de l'Espagne, qui était sous conquête mort. Donc, ce Sanctus nous dit « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu des armées célestes, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna dans les hauteurs, que soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. » Et donc, ce Sanctus est chanté par le chœur d'hommes de l'ensemble Vox in Rama dans le CD Modulatio Divinae Laudis.
Et on vous entend chanter là alors?
Oui, effectivement, j'y chante.
Gloria
Disque à moi spécial chant grégorien aujourd'hui en compagnie de Pierre Delprat, le président du chœur grégorien des Hautes-Alpes, et de Frédéric Rentière, son chef de chœur que l'on vient d'écouter à l'instant dans cet extrait. Vous n'étiez pas tout seul, hein?
Non, non.
Ça se chante toujours à plusieurs, le grégorien.
Alors, normalement, ça se chante forcément à plusieurs avec ce qu'on appelle la scola, qui est le chœur en fait. Mmh. La scola cantorum, c'était à la fois le lieu où on chantait et on apprenait à chanter, parce que scola en latin veut dire école. Mmh. Voilà. Et puis, mais le chant grégorien se chante en fait, est extrêmement varié dans sa répartition, c'est-à-dire qu'on pouvait chanter, il y avait la scola qui chantait surtout les parties difficiles, les parties délicates, il y avait une assemblée qui pouvait participer, de clercs et aussi de laïcs, qui pouvaient participer, chanter les grands refrains, les grandes acclamations, les grandes antiennes, et puis il y a aussi des parties qui étaient chantées que pour les qui étaient réservées à des solistes, pour des raisons de difficulté, des parties beaucoup plus ornées, des versets beaucoup plus ornés, donc en fait, c'est extrêmement varié la répartition des voix.
Alors Pierre Delprat, vous me disiez à l'instant hors antenne, vous faites partie d'autres chorales. Quelle différence entre chanter dans une chorale, on va dire classique, hein, entre guillemets, si tant est que ça existe, et une chorale de chant grégorien? Qu'est-ce que ça implique?
Bien, déjà, dans le chant grégorien, nous chantons a cappella, c'est-à-dire sans le support des instruments. Ce qui veut dire que ça nécessite une maîtrise de la voix importante, et c'est ce que l'on apprend au cours des stages, outre l'esthétique propre à cette musique. Voilà. Et la deuxième différence, c'est que la musique que l'on chante dans les chorales, dans les ensembles vocaux, c'est en général la musique qui, dans l'histoire, est venue après le chant grégorien. On va dire la musique de la Renaissance avec Monteverdi, etc. Puis la musique baroque et l'époque classique, et puis ensuite la musique contemporaine. Et là, on est dans une musique qui est une musique mesurée, écrite par mesure, et le rythme est donné par l'écriture musicale et par le découpage du chant en mesure. Alors que dans le chant grégorien, comme l'a expliqué Frédéric au début de l'émission, le rythme est donné par l'élan de la phrase, l'élan du texte. Voilà les différences fondamentales.
Et donc du coup, cette différence que vous avez mentionnée à l'instant, qu'est-ce que ça implique dans les répétitions, du fait qu'on n'a pas ce support de la mesure instrumentale? Qu'est-ce que ça implique?
Ça implique en fait, puisque j'ai beaucoup pratiqué les musiques mesurées avant, et je les pratique toujours d'ailleurs, c'est mon ensemble médiéval, la différence c'est que le support textuel reprend une importance fondamentale. On pourrait dire que le texte devient vraiment la substance de la musique. Or que dans beaucoup de musiques postérieures, on a l'impression, quand on les chante, très vite, que finalement le texte devient que c'est plutôt la musique qui devient le support fondamental, et que le texte devient presque un habillage, parfois, pas pour toutes les musiques, mais pour certaines musiques. Et donc ça implique, en répétition, concrètement, que reprendre goût au texte. Souvent d'ailleurs je fais prononcer le texte. J'insiste beaucoup sur les accents, ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire les accents qu'on va mettre en valeur quand on chante. Après, je les fais psalmodier sur une seule note. Et après, on reconstitue les pièces et on se rend compte très vite que la mélodie vraiment découle du geste du texte. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'oralité, c'est-à-dire la façon dont on vit un texte. Donc, le sens, évidemment, il faut absolument que les gens comprennent ce qu'ils chantent. Sinon, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et en général, ils me demandent souvent, quand j'oublie de leur dire, ils me disent, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on chante? Et à partir de ça, en réunissant le sens et après un vécu partagé, il y a, à un moment donné, le sens se dégage, en fait. Il se dégage et la mélodie elle-même vient nous guider. Alors, ce qui nous guide aussi beaucoup, c'est les neumes. On n'en a pas encore parlé. Les neumes, N-E-U-M-E-S, dont l'étymologie serait pneuma, le souffle, un mot grec, seraient en fait les indications que les scribes au Moyen-Âge ont laissées sur la manière de chanter. Ce qu'on appelle la conduction, c'est-à-dire la façon de conduire la voix quand on chante. Et ces neumes sont extrêmement précis, laissent une espèce de sténographie, de témoignage très ancien, de plus de 1000 ans, sur les élans, les moments où il faut accélérer, les moments où il faut ralentir, les moments où il faut appuyer, où il faut renforcer, où il faut adoucir, au contraire, trouver de la douceur dans le chant, etc. Tout est indiqué, ce sont des magnifiques témoignages qui montrent bien que c'était extrêmement vivant. Donc nous, notre mission, c'est aussi de retrouver cette vitalité.
Alors, on va écouter un troisième extrait que je vous laisse présenter de nouveau. Vous faites tellement bien avec vos petits livrets, là.
Oui, merci. Donc là, c'est un extrait du troisième CD de l'ensemble Vox in Rama, un double CD, Lignum Vitae, sur la thématique de l'arbre de vie au Moyen-Âge. Et dans le premier CD, il y a notamment des chants grégoriens qui vont servir de matériaux à des développements polyphoniques, dont je parlerai après. Et là, vous allez entendre un plein chant qui s'intitule « Cum in ora », en fait, qui commémore un miracle, le miracle de Saint-Vinoc. C'est le miracle, en fait, d'un calice qui aurait été brisé et qui, remis dans l'eau, en fait, lavé dans de l'eau froide, en fait, aurait repris forme, se serait reconstitué. Voilà, et donc le texte dit « À l'heure du Saint-Sacrifice où le calice manquait au Saint-Mystère, la coupe de verre, pourtant brisée par sa chute, fut lavée dans une eau pure, alors ressoudée, elle est prête pour le sacrement. »
Thank you.
Pierre Delprat, avant qu'on écoute cet extrait, Frédéric Rentière a insisté sur l'importance de comprendre les textes. C'est quelque chose que vous ressentez en tant que chanteur ?
Bien sûr. Ces chants-là ne peuvent pas être bien chantés. Mais Bach, c'est pareil. Si on ne comprend pas le texte, je veux dire que la musique, elle est là pour mettre en valeur et orner la transmission d'une tradition. Voilà, moi c'est comme ça que je le prends, et pour ceux qui le souhaitent, c'est un excellent moyen de puiser à cette tradition qui vient depuis les siècles et les siècles, et qui a été transmise par l'Église, tout simplement.
Alors là, on parle bien de l'Église catholique.
Oui. Voilà,
c'est quand même très restrictif sur ce champ-là.
Oui.
Est-ce qu'il est nécessaire d'être, question toute simple, est-ce qu'il est nécessaire d'être catholique pour interpréter le chant grégorien ?
Alors, pas du tout. Pas du tout.
On peut mettre un pied dans le profane.
Tout à fait. Notre association est une association à vocation culturelle. Nous accueillons aussi bien des croyants que des personnes qui sont des personnes qui ne pratiquent pas, ou des personnes qui ont pris de la distance avec la pratique religieuse de l'Église, voire des personnes qui se disent athées.
Oui.
Voilà. Notre approche est une approche culturelle. De retrouver le contact avec cette musique qui nous vient de 15 siècles d'histoire.
Donc, ce qui veut dire qu'on se détache quand même du sens du texte sur lequel vous insistiez. On le comprend.
Alors, on ne s'en détache pas. Non, alors, ça c'est important, cette question que vous soulevez là.
Justement pas, oui.
Justement pas. Alors, c'est toute la problématique moderne, en fait, en lien avec le religieux. On ne peut pas nier que le chant grégorien vient de l'Église. Ce serait une ineptie. Bon, personne ne pourrait affirmer une telle chose. Le fait est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, au XXIe siècle, de pouvoir chanter du chant grégorien ou du chant orthodoxe. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font du chant orthodoxe et qui ne sont pas orthodoxes pour autant, ou qui s'intéressent beaucoup à la musique byzantine, qui apprennent le chant de l'Église grecque, et qui pourtant ne sont pas tous pratiquants. Donc c'est bien la possibilité aujourd'hui, le paradoxe aussi, de pouvoir se nourrir de ces traditions millénaires qui sont extraordinaires, qui nous nourrissent en fait, dont on a besoin, mais sans forcément appartenir. Mais c'est pas pour autant qu'on ne rentre pas dans la profondeur du texte. C'est encore un paradoxe moderne, très intéressant, contemporain surtout, de se rendre compte que ces textes sont extrêmement riches, que on peut avoir un regard confessionnel sur ces textes qui peut être très profond et qui va être lié à une pratique, mais on peut très bien avoir un regard non confessionnel, mais rentrer tout dans la dimension, la profondeur biblique, la profondeur symbolique, la profondeur évocatrice qui est immense de ces textes, sans appartenir, sans être dans une démarche confessionnelle, ce qui est mon cas et ce que je défends et qui permet justement rend beaucoup plus accessible, dans le sens où il n'y a pas besoin d'appartenir pour pouvoir rentrer dans cette richesse et en bénéficier.
Alors, Frédéric Rentière, j'imagine que le corpus des chants polyphoniques est fini, d'un point de vue temporel et historique.
Oui.
Il n'y a pas d'actualité, on ne fait plus de chants grégoriens de nos jours, c'est terminé.
C'est-à-dire qu'on composerait de nouveaux chants grégoriens?
Oui.
Si, bien sûr.
Alors, je me trompais, expliquez-nous ça.
Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, le néo-grégorien, mais je le sais par des gens qui connaissent mieux dans le milieu ecclésiastique, je sais que le grégorien continue à être composé, puisqu'il y a des modifications dans le calendrier liturgique, des fêtes nouvelles, de nouveaux saints, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ça implique aussi la composition de nouvelles pièces qui correspondraient à une solennité. Donc, le chant grégorien continue à être composé, de la même manière que les polyphonies sacrées. Le répertoire, en tout cas, de l'Église catholique, il y a énormément de gens, d'organistes, mais de compositeurs, de chanteurs, qui pratiquent dans la liturgie et qui composent pour la liturgie. Donc, il y a chaque jour de nouvelles œuvres qui sont pas forcément connues, mais du grand public, mais.
Donc, toujours une vitalité.
Bien sûr.
Et il y a aussi des compositeurs contemporains qui continuent à puiser dans le répertoire grégorien pour retrouver des thèmes, et les exprimer et les composer à la mode d'aujourd'hui.
Voilà. Il y a une filiation, en fait. Hein. C'est vrai, dans la création contemporaine...
Et il y a des très, très belles choses.
Ouais, il y a beaucoup de compositeurs qui se rattachent à la tradition grégorienne, oui. Pour recréer une filiation, justement, liée à la mémoire de notre culture. Ouais.
Alors, on revient aux racines avec le morceau suivant.
Oui. donc là, justement, vous allez entendre une autre pièce de chant grégorien, Solem Justitiae, qui est une pièce pour une pièce mariale, c'est-à-dire une pièce dédiée à Marie, et qui dit, le texte dit ceci: celle qui va engendrer le soleil de justice, le roi suprême qui est le Christ, bien sûr, Marie, l'étoile de la mer, aujourd'hui s'est avancée vers l'Orient.
Spécial chant grégorien dans mes disques à moi aujourd'hui en compagnie de Pierre Delprat et Frédéric Rentière. Frédéric Rentière, chef de chœur pour le chœur grégorien des Hautes-Alpes, et Pierre Delprat, chanteur et président de cette association. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pourrez écouter le chœur grégorien des Hautes-Alpes bien très prochainement. Ce sera le dimanche 19 juin. Le chœur se produira à l'abbaye de Boscodon pour son concert de fin de saison. Ce sera à 16h30, donc dans un très beau lieu qui devrait, Frédéric Rentière, mettre bien en valeur les voix du chœur. Hein.
Tout à fait.
Et puis, donc, on écoute évidemment des extraits de chants grégoriens dans cette émission. Alors, il y a des CD avec lesquels vous êtes venu, avec des livrets très complets pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Si on souhaite se procurer ces CD.
Alors, ces CD sont donc vendus par l'ensemble Voxinrama. On peut les trouver donc sur le site internet de l'ensemble médiéval, www.voxinrama.com. Et donc, ces CD peuvent être, vous pouvez vous les procurer par correspondance ou par un, ou en payant en ligne directement et ils vous seront envoyés.
Et de belles illustrations.
Oui, alors il y a tout un travail qui est fait dans notre ensemble médiéval. Véronique Frampa est non seulement chanteuse, mais aussi notre illustratrice. C'est elle qui fait les créations, fait le graphique en s'inspirant dans le milieu médiéval.
Alors Frédéric Rentière, au cours de l'émission, on a laissé échapper quelquefois le mot polyphonique. Hein.
Oui.
Alors j'aimerais que vous nous éclairiez.
Voilà, alors le chant grégorien effectivement a pour caractéristique essentielle d'être monodique, c'est-à-dire de se chanter qu'à une seule voix. Alors, comme on disait au Moyen-Âge, ex ore uno, c'est-à-dire d'une seule bouche, il fallait que toutes les bouches ne fassent qu'une seule bouche et ne chantent qu'une seule voix. Mais la polyphonie, elle, c'est-à-dire le fait de chanter avec plusieurs voix, en fait, des voix différentes qui se réunissent, qui créent une harmonie ensemble, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé de manière concomitante, hein. On a souvent créé l'opposition en disant, il y a d'abord eu le grégorien, puis après, il y a eu les polyphonies, ce qui est faux. Toutes les études musicologiques le démontrent. La polyphonie a toujours existé en concomitance. Ce qui se faisait beaucoup, c'est que bon, le grégorien restait toujours resté en fait le chant finalement le chant essentiel, la base en fait du chant liturgique. Mais avec ce chant grégorien, pour des raisons de solennité, des raisons de liturgie, était solennisé, était déployé dans des polyphonies. Donc on prenait un thème en fait. Grégorien très connu, une mélodie, ce qu'on appelle un timbre, et c'est pas forcément un timbre d'ailleurs, ou un verset qui plaisait, et on rajoutait une deuxième voix, une troisième voix, une quatrième voix, on a commencé à créer des polyphonies, et ça depuis au moins le 9e siècle.
Alors c'est ce qu'on va entendre maintenant.
Voilà, alors là vous allez entendre un extrait du deuxième CD de l'album Lignum Vitae, où là vous allez entendre Kyrie de la messe de Machaut, puisque Machaut, lui, compositeur du XIVe siècle, était héritier du chant grégorien et de ce qu'on appelle le faux bourdon, c'est-à-dire une façon d'harmoniser en fait le chant grégorien, et va justement construire son Kyrie sur le Kyrie grégorien 4, le Kyrie Cuncti Potens Genitor, c'est le nom qui lui a été donné au Moyen-Âge, et qui était dédié aux apôtres. Donc là, dans l'enregistrement, vous allez entendre des polyphonies qui sont construites tout autour de ce chant grégorien qui est masqué à l'intérieur, que je chante d'ailleurs moi dans le CD, et puis en alterné avec des parties du chant grégorien qui, elles, sont chantées nues, sans la polyphonie. Donc du coup, pour les auditeurs, ils pourront bien entendre la version polyphonique du chant grégorien et la version monodique, voilà, du plein chant. Voilà.
Thank you.
Voilà, chant grégorien et polyphonie mêlée dans ce morceau. Alors Pierre Delprat, est-ce que vous pratiquez également cette mixité-là dans votre chœur grégorien ?
Mais oui, nous essayons de donner un peu de diversité dans les programmes que nous proposons. Donc effectivement, nous pratiquons le plein chant, nous pratiquons la polyphonie, nous pratiquons la psalmodie, et il nous arrive aussi d'interpréter quelques œuvres de Hildegard von Bingen, qui est bien connue des mélomanes. Ce n'est pas du grégorien au sens traditionnel et rigoureux du terme, parce que ça n'a pas été retenu par l'Église dans ses canons liturgiques, mais c'est une musique directement inspirée du chant grégorien. Voilà, donc nous essayons de varier les menus que nous proposons.
Alors Hildegard von Bingen, première femme compositrice, entre autres de ses qualités, elle fera l'objet d'une conférence table ronde à Boscodon cet automne. Boscodon, où vous serez le chœur grégorien des Hautes-Alpes pour un concert le 19 juin, je le rappelle, le concert de fin de saison, donc à 16h30. Hein. Et puis Frédéric Rentière, je vous laisse le mot de la fin pour nous présenter le dernier morceau dont on va écouter le début, en tout cas, si on en a on n'aura peut-être pas le temps de le diffuser entièrement, mais en tout cas là, on va être vraiment dans de la polyphonie cette fois.
Voilà, donc de la polyphonie qui est toujours construite sur un sanctus grégorien de la messe 17, mais qui sera complètement en fait enveloppé par les autres voix. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces éclaircissements, Frédéric Rentière et Pierre Delprat.
Merci Viviane, merci à la RAM de nous avoir accueillis.